Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciades et bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Mais aujourd'hui, c'est l'avant-dernière émission de Page à Page. Donc, dernière émission la semaine prochaine, je vous le signale. Et avant de vous retrouver en septembre. Alors aujourd'hui, je reçois Benoît Séverac. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Avec qui je vais parler de son dernier roman noir, Rendez-vous au 10 avril, publié aux éditions TME. On en parle dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Pour vous dire que mercredi prochain, 23 juin, à 10h15 et également à 10h45, à la bibliothèque des Isards, qui se situe 15 chemin des Isards, voilà, c'est le même nom, au métro 3 Cocus, à Toulouse, des lectures de contes pour les tout-petits jusqu'à 3 ans. Alors, on les amenait pas quand même tout bébé, hein, mais enfin, à partir d'un an, je pense que ça devrait le faire, jusqu'à 3 ans. C'est gratuit, mais l'inscription est nécessaire pour prévoir, bien sûr, le nombre de places pour tous ces petits bouts de chou. Donc c'est au 05 34 40 21 80. Voilà, je vais y arriver. Donc à la bibliothèque des Isards. Ensuite également mercredi 23 juin à 10h30 à la bibliothèque Duranty. Donc si vous habitez plus près du centre-ville, voilà, vous pouvez faire soit les Isards, soit la bibliothèque Duranty selon où vous habitez. Alors la bibliothèque Duranty se situe 6 rue du Colonel Pellissier dans le centre-ville de Toulouse. Et bien là, c'est une lecture de contes également pour les tout-petits jusqu'à 3 ans. Et puis je vous rappelle que chaque mercredi, même pendant les vacances scolaires, donc qui vont bientôt arriver hein, à grands pas, et bien à la médiathèque José Cabanis, au Piccolo Teatro, Red Jardin, à 11h, tous les mercredis, il y a une lecture, là c'est pour les un peu plus grands, c'est de 3 à 5 ans, et ça marche pendant l'été, sauf quand la médiathèque, bien sûr, sera fermée. Donc pour occuper vos petits, voilà, à la lecture, ça peut être sympa. Et puis je terminerai cette page d'infos pour samedi 26 juin, à 15h, à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, au Grand Auditorium, au Rez-de-Jardin. L'entrée est libre et gratuite. Ça sera une lecture-spectacle proposée par la compagnie Paradis Éprouvette. C'est pour un public à partir de 8 ans. Et un goûter sera offert à l'issue du spectacle. Donc, de belles histoires à écouter, mises en scène, en musique, etc. Donc, n'hésitez pas, samedi prochain, 26 juin, à 15h, d'emmener vos un peu plus grands, donc à partir de 8 ans, à la médiathèque José Cabanis.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Alors, je me tourne vers mon invité, Benoît Séverac. Donc, on s'était rencontrés en janvier dernier au Salon de Montgiscard.
Oui, oui.
C'est... Voilà. Et puis, donc, on avait parlé de Rendez-vous au 10 avril, hein, qui venait de sortir quelques mois avant.
Oui, c'est ça. Il est sorti il y a un an maintenant.
Ah, il y a un an déjà. Le temps passe à une vitesse.
Ouais. Mais on s'est loupé d'ailleurs au 10 avril.
C'est... Oui.
On est en juin.
Tout à fait. Et donc, voilà, donc vous m'aviez parlé un peu du contenu, enfin du lieu de ce roman et puis un petit peu de l'histoire. Et j'avais dit, tiens, je vais le lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis vraiment laissée entraîner dans ce roman noir. Il est très prenant. Et donc, forcément, voilà, j'avais envie d'en parler aujourd'hui avec vous.
Ouais, merci de m'inviter.
Merci à vous d'écrire des bons livres comme ça. Alors Benoît Séverac, vous avez grandi dans le Comminges, hein, au pied des Pyrénées. D'ailleurs, ça a donné lieu dans un de vos... Enfin, le roman précédent, Les Chevelus, ça a donné le décor du livre, d'ailleurs, hein, le Comminges.
Oui, Les Chevelus, oui. Ouais.
Voilà. Alors ensuite, vous avez fait vos études à Toulouse.
Oui, comme beaucoup.
Vous avez vécu aussi en Angleterre et en Alsace, à Colmar.
Oui, c'est ça. En Angleterre, quand j'étais pendant mes études, ouais. Puis à Colmar, c'était mon premier poste d'enseignant.
Voilà, parce que donc vous avez fait des études pour être professeur
prof d'anglais.
Voilà,
ouais.
Donc vous êtes professeur d'anglais, hein, d'anglais. Voilà. Et actuellement, vous enseignez à l'école vétérinaire de Toulouse.
C'est ça.
Et là, on va voir que ça a un rapport direct avec ce roman, puisque le décor, mais là c'était une autre époque, hein, dans le roman, c'est l'école vétérinaire il y a bien longtemps.
Oui,
ce n'est pas la même, elle a changé de place entre temps.
Mais en fait, c'est vrai que les lieux, du coup, je me rends compte, enfin, dans ma bio et biblio, finalement, les lieux se recoupent, quoi. J'écris souvent sur des lieux que j'aime ou auxquels je rends hommage. Ouais. Donc là, l'école vétérinaire, avant le Comminges, ouais, donc c'est toujours lié aux endroits que j'aime. Ouais.
Peut-être un jour sur l'Alsace,
Il y a déjà quelque chose dans les tuyaux, mais pour mais c'est du long terme. Ouais. Enfin, mais j'ai quelque chose, ouais, prévu pour.
Des choses qui vous tiennent à cœur.
Oui, que j'ai du mal à écrire d'ailleurs parce que c'est très perso, donc j'essaie de voilà, c'est déjà écrit, mais il faut que je laisse décanter parce que c'est trop autobiographique pour l'instant. Il faut que je revienne à la fiction.
Bon, alors vous reviendrez nous en parler dans quelques temps, voilà. Alors vous avez toujours aimé la lecture, hein. À 8 ans vous aviez lu Jack London, hein. Ça vous avait beaucoup
Oui, c'est le titre qui me revient, en tout cas j'en ai lu d'autres, hein, certainement,
oui,
avant,
mais c'est celui-ci
qui m'a fait me dire que j'aimerais être écrivain.
Vraiment, il y a eu un gros déclic comme ça.
Oui, oui.
Alors bon, il y a eu aussi les romans noirs américains, en passant par les romans anglais. Et puis les poètes romantiques, même Marguerite Yourcenar, enfin c'est assez divers, hein,
je crois qu'un auteur, de toute façon il est lecteur avant tout, hein,
oui.
et un auteur de polar ne lit pas que des polars, non, mais voilà.
Donc c'est assez diversifié.
J'ai une formation aussi littéraire, donc le roman anglais, le roman américain, les poètes, ça et les dramaturges, ça me
tout à fait,
c'est des choses qui m'ont fondé aussi en tant que lecteur et donc en tant qu'écrivain aussi.
Alors vous êtes aussi musicien dans une fanfare jazz latino rock.
Ouais, enfin moi je vais pas faire offense aux vrais musiciens. Je lis des notes sur des partitions. Voilà.
Bah oui, enfin bon.
Et je joue avec des copains. Ouais,
c'est
du partage. Ouais, celle-là c'est vraiment du plaisir et du partage. Il y a pas d'ambition autre
que
ça.
Oui, mais
bon ça.
Voilà, c'est la musique. Des fois on dit dans l'écriture ça peut se retrouver aussi, hein, une certaine musicalité.
Oui, bien sûr. C'est un tout. Hein. Enfin, de toute façon, je pense qu'on est un tout. Hein.
Et puis donc vous êtes aussi membre au conseil d'administration de Toulouse Polar du Sud, hein, qui a donc il y a eu la première édition de cette association l'année dernière en octobre.
Oui, c'est une aventure lancée par Claude Mesplède et la librairie La Renaissance, et ils m'ont fait l'amitié de m'inviter dans le conseil d'administration quand ils ont débuté, et je trouve que c'est une belle histoire.
On espère que ça va perdurer, qu'il y aura la deuxième édition à l'automne.
Oui, deuxième week-end d'octobre, vous pouvez déjà marquer ça dans vos tablettes. Et l'invité d'honneur est toujours l'Espagne. L'Espagne sera toujours invitée sur le salon,
d'accord,
mais cette année on y ajoute l'Italie. Donc
il y aura un auteur.
C'est la colle.
Bon, c'est une autre. Voilà, j'inviterai à la limite Claude Mesplède ou quelqu'un pour nous parler du programme en temps et en heure.
J'ai pas suivi la liste des invités. Je suis pas à jour.
Alors l'arrivée à l'écriture, Benoît Sévérac, la première fois donc vous avez écrit, vous aviez, entre autres, hein, vous aviez 10 ans, c'est chez votre grand-père à Paris, et vous avez fait un carnet de voyage.
Oui, c'est mon premier souvenir de production. Alors j'ai toujours adoré jouer avec les mots, et je pensais que c'était normal, je pensais que tout le monde aimait ça, même dans l'apprentissage, même dans la phase d'apprentissage de l'écriture à l'école, je trouvais ça véritablement une révélation, et je pensais que c'était normal. Bon, bien plus tard, j'ai compris que c'était pas
tout le monde ne ressentait pas ça.
Mais vraiment, la première production, c'était sous contrainte, d'ailleurs. C'était effectivement mon grand-père qui était cévenol, prenait ses quartiers d'hiver
à Paris.
Il m'avait fait monter. Voilà, j'avais 10 ans. C'était mon premier voyage à la capitale. J'ai un petit paysan là, qui sort de sa province. Et puis il était cévenol et calviniste, hein, protestant calviniste. Donc quelqu'un qui est pas sur terre pour rigoler. On est là pour travailler, pour être sérieux, ça avait des aspects très, très, très intéressants, dans la mesure où il m'avait demandé tous les soirs de faire un rapport de ma journée circonstanciée.
Comme un journal,
il fallait que ce soit bien écrit, que le vocabulaire soit riche, que je réutilise le vocabulaire que j'avais appris pendant la journée sur l'architecture, etc. Bon, ça me gavait, moi, j'avais 10 ans, j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de, faire autre chose le soir. Mais finalement, sous la contrainte, j'ai pris plaisir à faire ça, et j'ai vu que j'arrivais à produire plusieurs feuillets au bout de 10 jours, et j'ai montré ça à mon instit très fièrement, et elle, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais je pense qu'elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça bien, et ça a suffi pour me dire tiens, C'était vraiment un premier souvenir d'écriture et de lecture, d'un regard extérieur sur mon travail.
Alors après, à l'adolescence, ça n'a rien à voir, mais bon, il faut le signaler aussi quand même. Je veux dire, à l'adolescence, vous avez écrit des paroles pour votre groupe punk, ouais. Hein, voilà.
Bon, voilà, c'est dit.
Mais c'est de l'écriture aussi.
C'est de l'écriture,
aussi,
bien sûr. Non, mais je le revendique, c'était de la poésie, de toute façon. Hein. J'écrivais de la poésie à l'époque.
Ouais,
il y avait un côté très sombre, très no future, etc. Mais bon, mais finalement, ça correspond aussi à ma vision noire aujourd'hui. Quand j'écris du roman noir, je ne suis pas vraiment en rupture avec ces années-là. Ouais. Je crois que quand on est punk à 15 ans,
on le reste toute sa vie. Et puis, pendant vos études, vous avez écrit vos premières nouvelles.
Oui, voilà, c'est l'émulation.
C'est un peu une évolution, quoi, quelque part.
Oui, tout à fait, c'était une continuité. Ouais.
Alors, l'arrivée vraiment, vous avez reçu donc deux approbations, entre guillemets, du jury en 2002 et en 2004. Hein, vous avez été lauréat, en fait. Hein,
pour de concours de nouvelles, oui.
De concours de nouvelles.
Il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça, oui.
Et puis, un jour, donc, vous avez un contrat d'édition, en 2007, hein, exactement, pour le canal aux trousses, hein, dans le l'ouvrage. Que vous avez fait avec un photographe, hein, donc vous avez écrit, lui, il a produit ses photos, qui s'appelle Canal du Midi, aux éditions Gelbar, et la collection est patronnée par l'UNESCO. Donc là, ça a été vraiment votre premier pas dans l'écriture publiée, on va dire. Et
Mon premier contrat, donc la première fois que j'apparaissais sur un ouvrage, et donc du coup, voilà, on a commencé à... J'ai commencé à me faire connaître un petit peu comme ça. C'est une belle collection, un bel ouvrage.
Et photos, et vous avez décrit un peu les photos.
Chaque monument inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, en France, la collection consiste à associer ce photographe, toujours le même photographe, Jean-Jacques Gelbar, à un nouvelliste local qui connaît bien qui a un rapport particulier avec l'ouvrage. Et là, c'était le canal du Midi, donc j'ai écrit cette nouvelle. C'était une espèce d'autofiction, je me suis régalé, et elle a plu à pas mal de gens. Ça m'a permis d'être lu par les éditions TME qui, quand je les ai rencontrés, me connaissaient déjà. Voilà,
vous connaissez de nom, ils avaient lu ce que vous aviez écrit donc dans le canal du Midi. Et donc, la même année, donc en 2007, vous avez donc publié aux éditions TME, hein, j'avais reçu il y a quelques années Sandrine, hein, Banessi, donc des éditions qui sont situées à la Bège. Hein.
Une belle maison d'édition, des vrais éditeurs qui prennent des risques, parce que j'étais pas connu, hein. C'était mon premier roman, ils lançaient la collection Noire d'Histoire, ils ont aimé, ils ont cru en moi, ils m'ont pas mal guidé et épaulé, et ils se sont battus pour leur collection, mais aussi pour moi. Ils croient en...
Coup de cœur.
Ils aiment les auteurs, ils aiment les textes, et c'est des vrais éditeurs.
Coup de cœur, ils marchent pas au côté commercial, mais au côté coup de cœur.
Ils ont des soucis commerciaux, bien sûr.
Des
préoccupations commerciales, mais leur priorité, c'est de faire ce qu'ils aiment, et ce en quoi ils croient, et je trouve ça courageux aujourd'hui.
Oui, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait encore des éditeurs qui soient comme ça, tout à fait. Donc il y a parution des Chevelus, Les Chevelus, aux éditions TME, dans la collection donc Noire d'Histoire, et qui a reçu quand même 3 prix, hein, ce livre. Hein. C'est pas utile de dire quand même, mais qui a reçu 3 prix, le Grand Prix donc de la ville de Toulouse, le Grand Prix de la ville de Saint-Lys et le Prix du Polar Calibre 47 d'Agen.
De Bonne Encontre, de Polar Rencontre à côté d'Agen.
C'est
associé quasiment. Ouais.
Donc 3 prix pour ce premier roman.
J'étais content parce que c'est un polar historique, et parfois c'est un peu de mal à émerger dans les salons polar 2, je veux dire.
Oui.
Et j'étais content de recevoir un prix d'un salon comme ça, comme Polar Rencontre, qui est vraiment un salon de polar 2 pour les amateurs de polar, et en même temps un prix plus académique comme le Grand Prix littéraire de la ville de Toulouse. Donc je trouve que c'était intéressant d'avoir ces deux prix. Et la ville de Saint-Lys, là aussi c'est un petit salon, mais un beau salon. J'étais ravi. Ouais, il a bien marché.
Donc 3 prix pour ce premier roman, donc les Chevelus, et qui est d'ailleurs traduit en anglais.
Oui, ça c'est génial. Ah, il vient d'arriver, je l'ai reçu cette semaine.
En plus, pour vous qui enseignez l'anglais, c'est vraiment
c'est un bel hommage. Les éditions Enigma Books à New York, qui sont tombés par hasard dessus, qui l'ont aimé, qui ont racheté les droits et qui l'ont traduit, et ils les distribuent maintenant un peu partout dans le monde, je crois.
C'est un premier roman, je trouve ça... Je trouve ça très bien. Alors ensuite, en 2009, donc on arrive au deuxième roman et à celui qui nous intéresse aujourd'hui, Rendez-vous au 10 avril. Donc c'est dans la même collection, hein, Noir d'Histoire, aux mêmes éditions chez TME. Et lui, donc ce livre a reçu le prix Mémoire Doc.
Oui.
Dernièrement.
Alors là c'est pareil, hein. C'est marrant parce que j'étais en même temps lauréat du prix Mémoire Doc qui traditionnellement est quand même très tourné vers des romans de terroir et donc pas du tout ouvert au polar ni au roman noir. Donc il y avait une petite rupture dans la tradition du prix Mémoire Doc et j'étais content qu'on reconnaisse qu'il y avait un patrimoine, enfin qu'il y avait une dimension patrimoniale dans mon roman. Et en même temps j'étais en sélection officielle à Cognac, quoi, donc dans les derniers carrés.
Dans le polar,
dans le polar. Et c'est, voilà, je trouve que ça résume bien peut-être mon travail.
Tout à fait, on va en parler. Moi, il y a le côté intrigue policière, mais il y a tout le côté humain, patrie, histoire, quoi, tout simplement. Hein. Il n'y a pas que l'histoire policière dans ce livre. Hein. Il y a l'histoire,
oui, c'est l'histoire des hommes. Ouais.
Oui, tout à fait. Alors, sera-t-il traduit en anglais ?
Ah, je sais pas.
Aussi,
j'aimerais bien.
Ah, oui, bah
mais
oui.
Bon, en tout cas, on a peut-être. Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais on a un contact avec un éditeur grec. Alors, ça sera peut-être pas traduit en anglais, mais peut-être en grec.
Eh ben, pourquoi pas.
Donc.
Alors, rendez-vous au 10 avril. Donc, comme je le disais, c'est un roman policier, donc dans un cadre historique, comme la définition des éditions TME pour cette collection Noire d'Histoire. C'est un roman qui mène l'enquête au cœur de l'histoire de nos régions. Hein. C'est la définition des éditions cette collection Noire d'Histoire. Et c'est vrai que vos deux romans, hein, Les Chevelus et Rendez-vous au 10 avril, sont tout à fait dans cette collection et collent parfaitement à cette collection, quoi, cette définition.
Oui, ça colle avec ce que j'avais envie d'écrire, ouais, à ce moment-là. Ouais.
Alors, ça se passe à Toulouse, hein, ce roman se passe à Toulouse. Hein, on a plaisir à revoir, enfin à entendre le nom des rues, hein, parce que le nom des rues, finalement, n'ont pas tellement changé, hein, malgré que ça se passe dans une époque, on va le voir, assez ancienne.
Tout de même, mais, aussi, ouais, mais bon, ouais, ouais.
Voilà, on voit que voilà, ça fait plaisir à ceux qui connaissent Toulouse, voilà, de Esquirol, Rue Alsace, tout ça. Donc, c'est un roman de fiction, hein, il faut quand même le signaler, mais c'est sur des bases historiques. Réel.
Alors,
parce qu'il y a quand même, bon, la Première Guerre mondiale a bien existé,
ouais,
malheureusement,
voilà.
D'ailleurs.
Le propos, mais, c'est le retour des poilus. Donc, on n'est pas dans 14-18, on est en 1921, donc un petit recul de 3 ans par rapport à la guerre. Et mon propos, c'était le retour des poilus qui étaient indemnes physiquement,
oui,
mais psychologiquement détruits.
Tout à fait.
Bon, voilà, ça, c'était le propos. Après, le lieu, c'est l'école vétérinaire à l'époque où elle était à Marengo.
Donc, oui, mais on va y venir, l'emplacement.
Ouais,
mais la photo de couverture, je voulais juste signaler la photo de couverture. Alors, c'est une statue de cheval qui lève la tête. Et donc, dans le livre, est-ce que c'est bien la statue parle personnage préféré? Voilà, c'est la question que je pose.
C'est une statue qui vient d'être remise à l'honneur et à l'école vétérinaire, qui a longtemps été dénigrée et laissée quasiment à l'abandon, qui ne servait que pour les bizutages à l'époque.
D'accord.
Et qui vient d'être mise là, mais là, hein, c'est à Pâques, hein, Pâques 2010, qui vient d'être mise au centre de la cour d'honneur de l'école vétérinaire de Toulouse, qui maintenant à l'Ardenne, hein, mais c'est une statue qui est étroitement liée à l'histoire de l'école de
Toulouse.
Et donc,
dans le livre, voilà, c'est bien la même statue qui
je
fait
voulais
peur.
Rendre, ouais, ouais, exactement. Je voulais rendre hommage à ce cheval, c'est le cheval de Frémier, ou le cheval blessé, ou le condamné Montfaucon, elle a divers noms, mais Frémier est un sculpteur du 19e. Et je voulais rendre hommage à cette statue parce que c'est un percheron en bronze grandeur nature. Elle est très impressionnante, elle est magnifique et elle n'était pas mise comme il se devait. Là, voilà, j'ai tenu et j'ai même créé une scène
à laquelle
vous faites référence,
tout
exprès pour.
Alors l'époque, comme on le disait, c'est au début du XXe siècle, donc après la Première Guerre mondiale, hein, c'est au temps, comme on le disait à l'instant, où l'école vétérinaire de Toulouse se situait à l'emplacement de l'actuelle médiathèque José Cabanis.
Exactement.
On en a parlé tout à l'heure dans les infos, mais voilà, c'est médiathèque José Cabanis, elle était là avant l'école vétérinaire.
Ouais, exactement là, ouais. C'était un bâtiment magnifique d'Urbain Vitry, qui a signé les abattoirs, qui a signé Marchand, qui a signé pas mal de monuments dans Toulouse, et c'était c'est hallucinant qu'on l'ait rasé. Ouais. C'est un bâtiment qui n'était pas très vieux. Hein. C'était début 19e. Et bon, voilà, on l'a rasé mais un peu plus de 100 ans après sa construction. Dommage. Alors,
donc le lieu, voilà, le lieu principal de l'intrigue, c'est l'école vétérinaire donc, de Toulouse. Mais il y a aussi le quartier du Jardin des Plantes, hein, la rue du Plaisir, hein, notamment. Et puis, donc on va parler un peu donc, bah, de l'histoire. Donc le personnage principal s'appelle André Puma.
Ah, vous le dites.
Oui, non, oui, parce que bon, c'est pas très important quelque part.
Non, ça me gêne pas.
Même
si on
le sait qu'à la fin.
C'est juste que j'ai hésité à lui donner un nom.
C'est-à-dire que c'est un beau nom, André Puma.
Oui, alors c'est un copain à qui j'avais promis que c'était un pari. Fin de soirée un peu arrosée, je lui avais dit tu seras dans un roman, tu seras même le héros. Donc bon voilà, c'est un beau nom. C'est vrai qu'il a un nom très romanesque.
J'ai hésité.
Mon personnage, on est en narration jeu, on est à l'intérieur de sa tête tout le long, et je voulais qu'il soit déshumanisé, déstructuré d'un point de vue identitaire, à tel point que je le nomme à aucun moment, si ce n'est à la fin, une seule fois.
Oui, mais bon, voilà, oui. Bon.
J'ai hésité, je sais pas, je me pose encore la question, c'est pas très grave, mais
non.
Voilà. Et, bon, en tout cas, j'ai honoré mon pari auprès d'André Puma.
Tout à fait. Et donc c'est un inspecteur de police à Toulouse, mais qui est très particulier, très atypique. Hein. Il est miné par les souvenirs de la Première Guerre mondiale, et notamment par un souvenir particulier dont on en saura plus au fil de la lecture. Et puis il est morphinomane, opiomane.
Oui,
justement oublier un peu, enfin pour oublier entre guillemets. Quoi,
ouais,
pour,
c'est un peu un péché d'orgueil, c'est-à-dire que j'ai voulu éviter le cliché, c'est-à-dire que j'aime pas les clichés dans le polar. Et en même temps, je suis allé dans le cliché en me disant tu vas faire mieux. Que tu vas travailler sur le cliché, tu vas le transcender et tu vas faire un morphinomane alcoolique qui est vraiment le cliché le cliché de l'inspecteur détruit, etc. Seul, sans femme, sans famille, ni rien. Et tu vas travailler là-dessus pour en faire quelque chose d'original malgré tout. C'était vraiment de l'orgueil qui m'a poussé à prendre ce... Et après, ça s'est imposé. Au départ, c'était un petit défi que je m'étais lancé. Ouais.
Et quelque part, il est revenu vivant de la Première Guerre mondiale, mais enfin, au fond de lui-même, il est mort. Quoi.
Il est mort, on peut le dire. Ouais.
Hein, voilà. Et donc, c'est un personnage attachant. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de le trouver attachant. Quoi. Et puis, voilà, de par ce qui va arriver, il nous est rendu encore plus attachant. Hein. Et donc, il va mener une enquête assez ténébreuse, à souhait, pour notre plus grand plaisir, sur deux événements qui, au départ, paraissent tout à fait anodins. Une crise cardiaque en pleine nuit d'un huissier rue Montplaisir, justement, et puis le suicide d'un professeur à l'école vétérinaire de Toulouse.
Voilà.
Donc, quelque chose, deux événements où, normalement, il n'y a pas besoin d'enquête.
Voilà, ça, c'est relativement classique, comme ressort dans le polar, c'est-à-dire deux histoires qui se croisent à un moment donné. Bon, c'est Chandler, etc. Bon, l'intérêt est justement de se dire comment est-ce que je vais le faire. Je vais faire quelque chose de... Je travaille dans les codes. C'est toujours pareil, on est toujours dans les codes du polar, mais comment est-ce que je vais faire pour que ce soit original cette fois-ci ou que ce soit surprenant malgré tout.
C'est réussi, c'est surprenant, il y a un bon suspense, je vous le dis Benoît, j'ai beaucoup aimé, il y a un bon suspense et puis oui c'est surprenant parce que donc voilà, ça part de deux événements anodins et puis il y a toute une histoire qui suit, qui fait que les auditeurs découvriront à la lecture. Alors, moi il y a des personnages qui m'ont beaucoup marqué, bien sûr l'inspecteur, le personnage principal, mais aussi Lulu, qui est la tenancière du chapeau rouge au Courdillon.
J'ai beaucoup de tendresse pour elle aussi.
Gigi également aussi, avec qui il vient se réconforter et puis Pluny aussi, un élève donc de dernière année de l'école vétérinaire dont on n'en dira pas davantage, mais bon qui est aussi un personnage qui marque parce que bon ils font connaissance et puis finalement il se passe quelque chose quand même entre eux, enfin il y a quelque chose, il y a une amitié quelque part, enfin quelque chose de qui peut se
c'est pas tout blanc tout noir.
Et puis on découvre donc bien sûr que le titre, alors on se dit rendez-vous au 10 avril, bon tiens c'est un titre, bon pourquoi pas. Et en fait à la lecture, on apprend que le 10 avril c'est un bar qui se situe en bas de la rue du 10 avril, enfin tout du moins dans le roman parce que je ne sais pas s'il avait vraiment existé.
Il a vraiment existé, c'était vraiment le siège social des élèves vétérinaires.
Il a vraiment existé.
Il a vraiment existé. C'était là qu'ils menaient toutes leurs activités. C'est parce qu'ils n'avaient pas de cercle ou de foyer à l'intérieur de l'école vétérinaire, donc ils faisaient toutes leurs activités sociales. Et elles se déroulaient dans ce bar qui existe encore d'ailleurs. Je crois que encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ça s'appelle encore le bar du 10 avril, mais il est toujours là. Ouais.
Enfin, donc ça explique le titre. Voilà, rendez-vous au 10 avril à un moment. Voilà.
Ça parle aux vétérinaires.
Cluny dit à l'inspecteur rendez-vous au 10 avril. D'ailleurs, l'inspecteur dit non, mais c'est quoi le 10 avril? Et donc il lui explique que c'est un bar.
Oui, c'est un petit clin d'œil sur le jeu de mots, sur la date et la plaque.
Tout à fait. Et donc, il faut signaler aussi que ce roman, il y a des passages alternés, enfin intercalés. Donc il y a l'intrigue policière et puis l'enquête de l'inspecteur, avec des passages alternés où l'inspecteur prend de la morphine et où il repart dans son passé douloureux de la Première Guerre mondiale.
C'est vraiment un procédé de narration que j'ai aimé trouver.
Oui, parce que ça
m'a permis d'aller... On est tout le temps dans jeu, donc on sait très bien ce qu'il pense, etc. Mais pour aller sur son histoire, sur son passé, il me fallait trouver un moyen. Cette espèce de récurrence comme ça, qui vient en enchâssement un petit peu dans la narration... et donc on ne sait pas trop si c'est un délire, un rêve ou un souvenir.
Oui, au début, on ne comprend pas trop ce que c'est. Puis après,
ça se révèle petit à petit. C'est récurrent et répétitif. Et en même temps, à chaque fois, il y a des éléments nouveaux qui nous permettent de retracer son histoire.
Le papillon blanc. On ne peut plus regarder de toute façon un papillon de la même façon une fois qu'on a lu ce livre.
Merci.
Ça, c'est sûr.
Désolé pour les papillons.
Oui. Mais de toute façon, on ne ressort pas indemne de ce livre, Benoît Sévérac, je trouve, parce que, comme je disais, hormis l'intrigue policière avec le suspense et tout, et donc voilà. Mais il y a, c'est très marquant, justement, avec ces passages qui remontent dans le passé de la Première Guerre mondiale, avec des choses, les horreurs de la guerre tout court, quelque part. C'est pas que ça soit spécialement la Première Guerre mondiale, c'est les horreurs en général de toute guerre, Et on ressort, moi ça m'a beaucoup marqué.
C'est très gentil à vous de me dire ça. Parce que moi je suis ressorti marqué aussi de l'écriture de ce.
Oui, j'imagine.
J'ai mis du temps.
Donc vous avez fait des recherches, j'imagine. Là on n'a plus beaucoup de temps. Enfin, j'imagine.
Je travaille à l'école vétérinaire.
Vous étiez sur place pour toute la partie, on va dire, de l'école vétérinaire. Puis après pour la Seconde Guerre mondiale, vous avez fait des.
Première Guerre mondiale.
Oui, pardon, excusez-moi. Première Guerre mondiale.
Non, j'ai pas trop travaillé sur la Première Guerre parce que je connaissais déjà pas mal cette période là, mais c'est surtout l'école et le vécu de l'école et des anciens élèves vétérinaires, donc j'ai eu accès à tout ça, facilement.
Donc voilà, beaucoup de recherches quand même.
Toujours beaucoup de recherches.
En tout cas, c'est un livre vraiment que je conseille. Emmenez-le pendant vos vacances, vous ne serez pas déçus. C'est un livre qui va vous marquer, comme il m'a marqué. Rendez-vous au 10 avril aux éditions TME par Benoît Sévérac. Donc, j'espère vous revoir prochainement avec un nouveau livre.
Oui, octobre chez TME.
Benoît, pour
un
notre
polar,
plus grand
préhistorique.
Plaisir. Donc, préhistorique,
oui.
D'accord. Pour plaisir de vous lire à nouveau.
Merci beaucoup.
En tout cas, merci Benoît d'être venu.
Merci à vous.
La semaine prochaine, dernière émission de Page à Page, je recevrai Laszlo Mindszenty pour son recueil de poésie « Quand j'étais hongrois » aux éditions N&B. En attendant, bonne semaine et restez fidèles au programme de Radio Occitanie. Adiciat. Dum, boop, boop, be doop.